Sermon 23. Une vie vécue centrée sur Christ. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 34. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Saint bien-aimé, aujourd'hui, à travers les paroles de 1er Épître aux Corinthiens 11, nous allons examiner profondément la signification de l'ordre, de l'autorité et de la véritable sainte scène du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cette parole ne parle pas d'une simple cérémonie ou de règles extérieures, mais montre clairement avec quel cœur et quelle attitude une personne qui connaît l'Évangile doit se tenir devant Dieu. Tout d'abord, Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Cela ne signifie pas de suivre Paul en tant qu'individu, mais d'imiter la direction d'une vie vécue centrée sur Christ. Une personne qui connaît l'Évangile ne se prend pas elle-même comme norme, mais prend uniquement Jésus-Christ comme norme. Dans les paroles suivantes, il parle de la question du chef, c'est-à-dire de l'autorité et de l'ordre. Il dit que le chef de l'homme est Christ, que le chef de la femme est l'homme, et que le chef de Christ est Dieu. Cette parole ne parle pas simplement de culture ou de coutumes extérieures. Elle parle de l'ordre établi par Dieu. Cependant, ce qui est important ici n'est pas la forme extérieure, mais le centre du cœur. Si une personne ne connaît pas la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, elle devient obsédée par les règles extérieures. Elle considère comme important de savoir si elle a couvert sa tête ou non, ou si elle a respecté les formalités. Mais une personne qui connaît l'évangile de l'eau et de l'esprit est différente. Parce qu'elle est quelqu'un dont la relation avec Dieu a déjà été restaurée, elle accorde plus d'importance au centre du cœur qu'à l'apparence extérieure. Car sa justice ne vient pas de ses propres œuvres, mais vient du véritable salut dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus a déjà accompli. Jésus a reçu le baptême de Jean. Les péchés du monde ont été transférés sur lui. Il a reçu le jugement du péché sur la croix et a accompli notre salut par sa résurrection des morts. Celui qui croit en cet évangile de l'eau et de l'esprit devient quelqu'un qui a déjà reçu l'effacement des péchés devant Dieu. Maintenant, Paul traite un autre problème de l'église de Corinthe. C'est la question même de la Sainte Cène. En observant le repas du Seigneur, ils ne partageaient ou pas les uns avec les autres. Et il y avait des cas où certains étaient rassasiés et d'autres avaient faim. Ce n'est pas une simple question d'étiquette. C'était un état où ils avaient perdu l'essence de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Paul parle avec force. « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Pourquoi cela ? Parce que leur centre n'était pas le Seigneur, mais eux-mêmes. » La Sainte Cène n'est pas un simple repas, mais un lieu pour se souvenir du corps et du sang de Jésus-Christ. Paul explique à nouveau la signification du repas du Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Cette parole est très importante. Le corps et le sang du Seigneur ne sont pas de simples symboles, mais représentent ce que Jésus a réellement fait pour nous. En recevant le baptême, Jésus a pris nos péchés sur son propre corps et avec ses péchés, il a versé son sang sur la croix et a été jugé. C'est exactement la nouvelle alliance. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, la Sainte Cène n'est pas un simple rituel. C'est un lieu pour réaffirmer le salut qui a déjà été accompli. Ce n'est pas un lieu pour essayer de résoudre ses péchés à nouveau, mais un lieu pour accepter par la foi que les péchés ont déjà été résolus. Ainsi, Paul dit « Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. » Beaucoup de gens comprennent si mal cette parole. Ils pensent qu'il s'agit de vérifier « Suis-je devenu pur ? Suis-je qualifié ?» Cependant, l'examen de soi dont parle Paul n'est pas cela. C'est d'examiner si je crois correctement à l'Évangile et si je connais avec précision la signification du corps et du sang de Jésus. Si l'on participe formellement sans connaître cet Évangile, c'est ne pas discerner le corps et le sang du Seigneur. Ainsi, Paul dit « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Cela ne signifie pas que la Sainte Cène elle-même est dangereuse, mais c'est une parole qui met en garde contre le fait d'accomplir simplement la forme dans un état d'ignorance de l'Évangile. Saint bien-aimé, 1er épître aux Corinthiens 11, nous enseigne un fait très important. La foi n'est pas une forme extérieure, mais elle doit reposer sur la compréhension et la croyance correcte de l'Évangile. Votre foi est-elle peut-être bloquée dans des formalités, tout en offrant un culte, en participant à la Sainte Cène et en faisant diverses activités, manquez-vous en réalité le centre de l'Évangile? Si c'est le cas, vous devez revenir. Jésus a déjà pris tous vos péchés sur ses épaules par son baptême, a complètement résolu ses péchés sur la croix et a accompli le salut par sa résurrection. Celui qui croit en cet Évangile est déjà une personne juste devant Dieu. Maintenant, nous devons nous tenir devant Dieu sur cet Évangile. Nous devons avancer, non pas avec des formalités, mais avec la vérité. Non pas avec des rituels, mais avec la foi et avec un cœur centré sur Dieu plutôt que d'être soucieux du regard des gens. Lorsque nous faisons cela, notre culte devient un véritable culte, la Sainte Cène devient une véritable communion et notre vie entière devient une vie qui rend gloire à Dieu. J'espère que cet évangile deviendra votre centre. Par conséquent, je vous bénis au nom du Seigneur afin que vous ne perdiez l'essence sous aucune forme et que vous vous teniez toujours devant Dieu avec une foi sincère.